Partie 2. Chapitre 1. À la recherche de l'inconnu. 15 jours à peu près s'étaient écoulés depuis les scènes par lesquelles se termine la première partie de ce récit. Et New York avait oublié déjà le procès de James Gobson, bien que l'identité de la femme noyée n'eût pas été découverte, et que son assassin fût resté inconnu. Lorsqu'un soir, l'omnibus du chemin de fer amena à l'hôtel de l'Union à Jefferson, capitale de l'État de Missouri, 3 voyageurs que le sort paraissait avoir réunis, comme à plaisir, par amour des contrastes. L'un était de taille moyenne, d'une physionomie intelligente et de tournure distinguée. L'autre était long, de charpente osseuse et de mine rébarbative. Le troisième, gros, coloré, avait une bonne figure placide et des regards naïfs. Nos lecteurs ont déjà reconnu William Dow, le capitaine Young et le pauvre Saunders. Ces 3 voyageurs n'avaient quitté New York que 3 jours auparavant, dans les circonstances suivantes. Un matin, William Dow vint rendre au fabricant de biscuits une visite bien inattendue, car celui-ci ne l'avait plus revu depuis l'arrêt qui avait acquitté et réhabilité James Gobson. « Vous, monsieur Dow, vous ? » s'écria Saunders. « Vous ne m'avez donc pas oublié tout à fait ?»« Je n'ai jamais pensé si souvent à vous, au contraire, » répondit le détective en serrant la main que lui tendait le négociant. Qu'êtes-vous devenu ? Je suis allé faire un voyage à Buffalo.
À Buffalo ?
Oui, la ville où demeuraient Missada et son mari avant leur divorce. Je vous raconterai cette petite excursion plus tard. En ce moment, ce n'est pas cela dont il s'agit. Voulez-vous toujours vous venger du ravisseur de votre maîtresse ?
Certes, je veux aussi me venger de la coquine.
Toute la colère et aussi peut-être toute la passion de l'amoureux Yankee se réveillait au souvenir de l'infidèle et du sans-gêne avec lequel il avait été abandonné. « Alors, reprit Dow, réglez vos affaires pour une absence d'une 10 jours. Je vous emmène. » Le bon Saunders n'avait même pas demandé à son ami où il voulait le conduire. Il était allé tout simplement, sa valise à la main et son portefeuille bourré de banknotes, le rejoindre à la gare qui lui avait désignée celle de Washington. Avec Young, les choses s'étaient passées de même. Monsieur Kelly, ayant averti le chef des détectives qu'il pourrait s'absenter en compagnie de William Dow quand celui-ci le désirerait, le terrible capitaine n'avait pas hasardé l'ombre d'une réflexion. Lorsque l'ordre de se trouver à la gare lui était parvenu, il s'était contenté d'annoncer son départ à l'office central, et c'est à peine si, en retrouvant le fabricant de biscuits au chemin de fer, il avait esquissé un mouvement de surprise. Durant la route de New York à Washington, de Washington à Saint-Louis et de Saint-Louis à Jefferson, Saunders avait bien tenté de temps à autre quelques questions, mais William Dow était resté impénétrable. Le seul renseignement qu'il n'eût pas refusé à l'ex-amant de Missada, c'est qu'il s'arrêterait à Jefferson. Le brave négociant aspirait donc doublement après le moment de l'arrivée. D'abord parce qu'il tenait beaucoup à ses aises et que le voyage, si confortable que soient les wagons américains, l'avait extrêmement fatigué. Ensuite, parce qu'il espérait que son ami Dow ne tarderait pas davantage à l'instruire du but de ce long voyage. Aussi, à peine installé à l'hôtel, le pressa-t-il d'interrogation. Cher monsieur, lui répondit notre personnage, j'avais besoin d'avoir auprès de moi, pendant la campagne que j'entreprends, 2 auxiliaires et 2 témoins. Vous et Young étiez entre tous ceux qui me convenaient le mieux par leur caractère, leur énergie, leur honorabilité. Voilà pourquoi vous êtes avec moi. Intérieurement flatté de ces épithètes louangeuses dont il avait le droit de prendre sa part, Saunders sourit en disant « sans doute, mais auxiliaire, comment ? Témoin de quoi ? Je n'en sais rien encore, tout dépendra des circonstances. Nous ne sommes qu'à la première station de notre excursion. »
« La première station ? Où donc allons-nous ?
Je ne puis vous le dire en ce moment.
Je suppose cependant que nous ne ferons pas le tour du monde. »
« Oh, pas tout à fait. »
« Comment pas tout à fait ? Mais je ne veux pas même le faire en partie. »
Le gros homme avait prononcé ces mots avec une physionomie tellement bouleversée et un accent d'épouvante si comique que William Dow, toujours si grave, ne put s'empêcher de sourire en lui répondant. « Calmez-vous, mon cher ami, c'est vous-même qui demain me prierez de ne pas interrompre notre voyage. En attendant, dînons. » Un peu rassuré, mais non convaincu, Saunders se décida alors à se mettre à table. Et il s'y comporta si bien que 2 heures après, il passa directement de la salle à manger dans son lit pour oublier instantanément qu'il était à 300 lieues de New York, à la recherche d'un problème dont il ne connaissait pas le premier mot. Le lendemain matin, après une excellente nuit, et au moment où il se disposait à rejoindre Do et Young, ceux-ci se firent annoncer par un des domestiques de l'hôtel et montèrent dans sa chambre. Avant qu'ils n'en eussent fermé la porte, le gros Yankee crut voir que ses compagnons de route étaient suivis par une demi-douzaine d'individus qui s'étaient arrêtés dans le vestibule. Il allait s'informer de ce que voulaient ces gens, mais il n'en eut pas le temps, car William Do lui dit aussitôt en lui serrant la main. « Cher monsieur, voulez-vous nous permettre de recevoir chez vous quelques visites ?»« Parfaitement, » répondit le fabricant de biscuits, qui s'était sagement décidé à ne plus demander aucune explication à son mystérieux ami. Celui-ci s'était assis auprès d'une table et avait tiré de sa poche un large pli dans lequel se trouvaient des papiers et des photographies. « Vous connaissez cet homme ? » demanda-t-il à Saunders en lui présentant un des portraits. « Non, » fit le négociant après un instant d'examen. « Et vous, mon brave Young ?»«
Parbleu !» s'écria le chef des détectives. « C'est James Gobson !»«
Lui-même, le mari de Miss Ada. »«
Le mari de Miss Ada ?» répéta Saunders.
Il avait arraché la photographie des mains du détective et dévorait de ses regards furieux cet homme que sa jalousie lui représentait au pied de l'infidèle. « Capitaine, » dit William Do, « faites-moi le plaisir d'introduire l'un après l'autre chacun des individus qui sont là dans le vestibule. « Commencez par Thomas Burnett. »«
Thomas Burnett !» appela Young de sa plus belle voix de commandement en ouvrant la porte.
L'homme, dont c'était le nom, s'empressa de paraître. C'était le portier de l'hôtel de l'Union. « Au mois de janvier dernier, » lui demanda Do, « vous étiez déjà dans l'établissement ?»«
Il y a un an que j'en suis le concierge interprète, » répondit Burnett.
« Vous avez alors affaire à tous les voyageurs ?»«
À tous.
Vous rappelez-vous celui-ci ? »
Il lui présentait le portrait de James Gobson.
« Parfaitement, » affirma l'employé. « Autant que je m'en puis souvenir, j'ai vu ce monsieur dans les premiers jours de janvier. Il est resté ici 3 ou 4 jours. »«
Merci, mon ami. »
« À un autre, Tom Bing. » Tom Bing était le conducteur de l'omnibus de l'hôtel. Cet employé, ainsi que son camarade, reconnut immédiatement dans la photographie du mari d'Ada Ricard un voyageur qu'il avait conduit au chemin de fer du Nord dans les premiers jours du mois de janvier. Puis vinrent ensuite le sommelier, le maître d'hôtel, le coiffeur de l'établissement et un armurier qui n'hésitèrent pas à retrouver dans le portrait de James Gobson les traits d'un individu avec lequel ils avaient eu divers rapports à l'époque dont parlait leur interrogateur. « Mon cher monsieur Saunders, » dit le détective après avoir pris note de ces renseignements, « faites-moi le plaisir de donner $10 à chacun de ces braves gens. » Sans se permettre l'ombre d'une réflexion, le fabricant de biscuits déboursa la dite somme et il attendit patiemment le départ de ses $50 pour avoir le mot de l'énigme.
« Vous ne comprenez pas ?» lui demanda William.
« Non, » répondit franchement le brave homme.
« Et vous, Young ?»«
Pas davantage, » fit à son tour le capitaine avec un sourire qu'il s'efforçait de rendre moqueur.
« Eh bien, mes chers amis, je ne vous demande que de vous souvenir exactement des paroles que vous venez d'entendre. James Gobson était ici, à Jefferson, au commencement de janvier, c'est-à-dire quelques jours avant l'enlèvement de Miss Ada et la découverte de cette noyée dont on ignore toujours le nom. De cette ville, le même personnage est parti pour Omaha. Le conducteur de l'omnibus s'en rappelle parfaitement.
« D'où vous concluez ?» hasarda le sceptique Young.
« Je ne conclue pas, je constate. Et ce premier point assuré, je décide notre départ pour Omaha. »
« Pour Omaha ?» s'écria Saunders.
« Où, je l'espère, nous trouverons quelques pistes plus intéressantes encore. Le train part à midi. Nous y serons rendus demain de bonne heure. »
En disant ces mots, William Do avait remis précieusement le portrait de James Gobson dans son portefeuille et il s'était levé. Le marchand de biscuits, n'ayant aucune objection à faire, regardait le capitaine. Celui-ci haussa les épaules. Ne comprenant pas où son ami voulait en venir, le terrible mais peu intelligent chef des détectives trouvait plus simple d'affecter avec lui une sorte de condescendance ironique. Mais comme il ne lui obéissait pas moins aveuglement que Saunders, ils montèrent tous trois en wagon après le déjeuner. Le lendemain matin, ils étaient à Omaha, la dernière station à cette époque du chemin de fer qui allait bientôt s'élancer vers l'ouest, à travers le désert et les montagnes rocheuses, jusqu'à San Francisco. C'est dans cette ville que se rejoignent toutes les lignes de l'Erie Railway et que commence le manche de ce que les Américains appellent prosaïquement la fourchette. Nulle figure, en effet, ne représente mieux que celle de cet instrument de table ce gigantesque réseau dont les diverses voies partent d'Omaha pour se diriger vers l'Est, c'est-à-dire vers Chicago, Philadelphie, New York, Saint-Louis et Washington, tandis qu'une ligne unique court jusqu'au Pacifique. Située au confluent de la rivière Platte et du Missouri, à moitié route à peu près de New York et de San Francisco, c'est-à-dire à plus de 500 lieues des deux océans, sur les confins du désert, en plein pays indien, Omaha était déjà une grande ville par ses usines, ses chantiers, ses magasins, ses hôtels, mais restait un caravansérail étrange par la population flottante qui le traversait et par le voisinage des Indiens Pawnees, Otoos, Winnebagoes et Sioux, qui campaient aux environs dans les réserves, sur les rives boueuses du Mississippi, dans les plaines, en formant autour de ce point civilisé comme une ceinture primitive et sauvage. C'était au fort Calhoun et Croghan, et un peu plus au nord, à Dakota, sur la rive gauche du Missouri, que les Indiens venaient échanger les produits de leur chasse et leurs bestiaux contre des armes, de la poudre, des vêtements et de l'eau de vie. Mais ils avaient aussi avec Omaha des rapports directs par l'intermédiaire des agents des grandes compagnies de fourrure et par les trappeurs et les pionniers qui trafiquaient pour leur propre compte. Ces individus, batteurs d'estrade, aventuriers et repris de justice pour la plupart, apparaissaient en ville à intervalles presque réguliers. Certains y avaient des relations officielles, car c'était par eux que les autorités militaires étaient instruites des dispositions pacifiques ou belliqueuses de ces peuplades, qui défendent si énergiquement pied à pied ce territoire dont la civilisation et l'industrie leur prend chaque jour une nouvelle partie. Si peu au courant qu'il fût de toutes ces questions, Saunders ne les ignorait pas totalement. Et laissé seul par William Doe sous la galerie de l'hôtel où ils étaient descendus, il se demandait, sans se pouvoir répondre, ce que son ami venait chercher dans ce pays perdu, lorsqu'il l'aperçut traversant le jardin de l'établissement en compagnie de Young et d'un second personnage singulièrement accoutré. On eût dit un héros de Fillmore Cooper ou du capitaine Mainwaring. Il était chaussé de fortes bottes, d'où sortaient ses pantalons de velours brun à côtes, que retenait une large ceinture de cuir, paraissant tout à la fois son arsenal et son coffre-fort, car elle était ornée de deux revolvers et d'un long couteau, et son épaisseur révélait la présence d'une quantité respectable de pièces de monnaie. Sa veste de chasse entr'ouverte laissait voir sa chemise de laine rouge et sa poitrine velue. Il était coiffé d'un chapeau de feutre mou à grands bords et portait fièrement en bandoulière une carabine à deux coups. Autant que le permettait d'en juger sa barbe épaisse, d'un blond fauve, cet homme devait avoir une quarantaine d'années. Ce qu'il était facile de deviner, à ses regards, à sa voix, à ses larges épaules, c'était son énergie et sa vigueur. Pendant que le fabricant de biscuits l'examinait, l'inconnu, tout en causant avec ses compagnons, avait gagné la galerie. « Monsieur Saunders, dit le détective lorsqu'ils l'eurent rejoint tous trois, je vous présente John Butler, le plus intrépide trappeur des rives du Missouri. » Le bonhomme se souleva poliment du fauteuil de rotin dans lequel il était étendu, et toute sa physionomie se fit à ce point interrogative que William Doe comprit combien il implorait une explication. Aussi, reprit-il aussitôt en faisant signe au trappeur et à Young de s'asseoir, et en prenant lui-même un siège. « Nous sommes parfaitement ici pour causer. Monsieur Butler, cher monsieur, connaît mieux qu'un Indien même toutes les peuplades qui occupent les réserves au nord d'Omaha, et les chefs des Sioux de Dakota sont particulièrement ses amis. Or, comme c'est chez braves gens que nous avons affaire, je l'ai prié de nous servir de guide. » Saunders, qui s'était étendu de nouveau dans son fauteuil, en bondit épouvanté. « Chez les Sioux » répétait-il. « Chez les Sioux !» D'un geste fort expressif, il décrivait autour de sa tête le mouvement circulaire de l'opération du scalp. Oh, ne craignez rien, monsieur, dit John Butler en souriant. Avec moi, il n'y a nul danger de ce genre à courir. Le pacifique Yankee, qui parcourait de ses regards affolés l'attirail meurtrier du trappeur, paraissait si bien dire que ce n'étaient pas des Indiens seuls dont il était effrayé, que le capitaine Young lui-même éclata de rire. Mais Butler, sans s'offenser des soupçons du gros homme, reprit avec le même calme. Non, monsieur, vous n'aurez rien à redouter.
Nous sommes en ce moment en paix avec les Indiens de la plaine. Les chefs qui sont allés à Washington au mois de janvier sont revenus satisfaits. On peut parcourir sans l'ombre de péril le Dakota et l'Iowa.
Vous entendez, cher monsieur Saunders, observa Doe.
Les chefs qui sont allés à Washington au mois de janvier. Retenez bien ces mots. Au mois de janvier.
Par le diable, j'entends bien, répondit l'examen de Misada. Mais je ne comprends pas. Que voulez-vous aller faire chez les Sioux?
Ceci, c'est mon secret.
Refusez-vous de m'accompagner?
Oh, par Dieu, non! Vous diriez que j'ai eu peur. Cependant, si je saisis un traître mot, je veux être pendu un jour.
Ce n'est pas vous qu'il serait.
J'espère bien. Mais qui donc?
James Gobson en personne.
James Gobson?
Alors, Misada redeviendra libre? Je suis certain, voyez-vous, que c'est la terreur seule qui l'unit à ce misérable. James Gobson pendu. Mais pourquoi faut-il, pour obtenir ce résultat, que nous allions chez les Indiens?
Parce que c'est là que se trouve la corde que je lui destine.
Tenez, cher ami, je préfère ne plus vous interroger, car vous me répondez de façon à me faire perdre la tête une seconde fois.
Eh bien, soit, en route pour la prairie.
Ah, si jamais on m'avait dit que je deviendrais trappeur!
Quand partons-nous?
Demain, au point du jour, répondit Butler, à qui s'adressait spécialement cette question. Le chemin de fer nous laissera le soir même à Sioux City. Nous retrouverons là des chevaux, et en quelques heures, nous serons sur les réserves.
Les réserves sont les territoires laissés aux Indiens. Ils ne doivent pas en dépasser les limites, du moins en troupes nombreuses et en armes.
À demain, alors, fit Saunders avec un geste héroïque.
À demain, messieurs, répéta le trappeur. C'est moi qui viendrai vous réveiller.
En rejetant sur son épaule sa carabine qu'il avait placée entre ses jambes, John Butler salua ses futurs compagnons et sortit de la galerie.
« Monsieur Doe, dit le brave fabricant en montrant du doigt l'aventurier qui traversait le jardin, est-ce que vous êtes bien sûr de ce gaillard-là?
« Mon cher ami, riposta le détective, j'ai pris tous les renseignements utiles sur Butler. Il y a 10 ans qu'il parcourt la prairie, chassant, faisant des échanges, servant souvent d'intermédiaire entre les commandants des forts et les Indiens. Et jamais on n'a eu se plaindre de lui. D'ailleurs, quel intérêt aurait-il à nous trahir? Je lui donnerai demain $100 en arrivant à Sioux City. 100 autres lorsque nous y rentrerons, et enfin 100 autres encore si les renseignements qu'il m'a fournis sont exacts, et si je rapporte de notre excursion ce que je vais chercher. De plus, comme tout me permet de supposer que Maître Butler a sur la conscience quelques peccadilles qui l'a conduit à cette vie aventureuse, je lui ai promis d'arranger son affaire à ma rentrée à New York. Il a ma parole et celle de M. Young.
Absolument, répondit le capitaine.
Et d'abord, est-ce que nous avons besoin de prendre toutes ces précautions? Est-ce qu'à nous trois, nous ne valons pas tous les aventuriers et tous les Indiens de la prairie?
Cette énergique déclaration de l'intrépide capitaine coupa court à quelques dernières observations qu'aurait peut-être hasardé volontiers le pauvre Saunders. Faisant contre mauvaise fortune bon visage, il se campa sur les hanches et dit au chef des détectives d'un ton délibéré.
« Bien parlé, monsieur Young. Je continue à ne pas comprendre pourquoi nous allons là-bas, mais je suis des vôtres. Lorsque je reverrai Misada, je veux qu'elle sache ce que j'ai fait pour elle. »
Le lendemain, les choses se passèrent comme elles avaient été arrêtées. Accompagnés de John Butler, les trois voyageurs prirent le premier train qui les conduisit en quelques heures à Sioux City, une des stations du chemin de fer qui relie Omaha à Chicago en traversant l'Iowa et l'Illinois. Après avoir passé la nuit dans cette ville, le jour suivant, au lever du soleil, ils la quittèrent pour suivre la route que côtoie la rivière des Sioux en remontant jusqu'au fort Dakota. William Doe avait une lettre de recommandation pour le commandant de ce poste avancé. Les 4 excursionnistes montaient d'excellents chevaux que Butler avait trouvés assez facilement, et Saunders était superbe dans son attirail guerrier. Lui aussi, à l'instar d'un trappeur, il avait fait de sa ceinture un véritable arsenal, et il caressait souvent du regard la carabine qui était attachée à sa selle. On eût dit qu'il partait à la conquête d'un territoire ennemi. Mais vers le milieu de la matinée, au fur et à mesure que le soleil devenait plus perpendiculaire et plus ardent, cette belle ardeur commença à décroître. Edo y mit bon ordre en disant au fabricant de biscuits. « Mon cher monsieur, si nous continuons de ce train-là, « nos chevaux seront fourbus avant d'avoir franchi les 25 lieues que nous avons à parcourir. »«
D'ailleurs, observa Butler, nous ne pouvons arriver au fort aujourd'hui. Le plus sage est donc de ne pas nous presser et de ménager nos montures. Nous en aurons surtout besoin dans la prairie. »
Ces quelques mots rappelèrent le bon bourgeois au calme. et la petite troupe poursuivit sa marche avec une allure plus modérée. Vers midi, elle fit halte sur le bord de la rivière, à l'abri de quelques arbres maladifs, et Saunders prit de fort bon appétit sa part des provisions dont le trappeur n'avait pas manqué de se munir. Puis, après quelques heures de repos, nos voyageurs se remirent en route. Le soir venu, ils trouvèrent, moyennant dollars, l'hospitalité dans une ferme allemande, et le lendemain, après avoir traversé à gué un des bras de la rivière des Sioux, ils arrivèrent enfin au fort Dakota. Le capitaine Sams, qui commandait cette position militaire, reçut à merveille William Doe et ses compagnons. Et comme le fort était admirablement approvisionné, Saunders, que la longueur de la route avait un peu assombri, reprit bientôt son humeur guerrière. Le lendemain matin, il était équipé depuis longtemps déjà, lorsque Butler donna le signal du départ. Une heure plus tard, après avoir piqué droit au nord, nos héros étaient dans la prairie. Ils n'avaient plus autour d'eux pour horizon qu'une plaine immense, sans ondulation de terrain, d'un vert sombre et d'une tristesse désespérante. C'est à peine si, çà et là, quelques arbrisseaux brisaient la monotonie du paysage en s'élevant au-dessus de l'herbe épaisse dans laquelle les chevaux disparaissaient jusqu'à mi-jambe. Dédaignant, malgré le brouillard, les sentiers frayés par les bœufs, le trappeur avait lancé ses compagnons à travers la plaine, n'ayant pour guide dans son véritable désert que des points de repère connus de lui seul. « Hé, Master John !» lui demanda tout à coup Saunders, après avoir gardé le silence autant que lui avait permis sa patience. « Est-ce que nous en avons encore pour longtemps de cette saute promenade ?»« Pour 2 heures au moins, » répondit Butler, qui le précédait. « Et je vous engage à marcher sur mes pas, car en vous écartant, vous pourriez rencontrer quelque tourbière dans laquelle vous disparaîtriez, vous et votre cheval. »
« My God !»
s'écria le bonhomme, effrayé de ce nouveau danger qu'il courait sans le savoir depuis son entrée dans la prairie. « Vous auriez pu me prévenir plus tôt. » « Voyons un peu de calme, cher monsieur Saunders, » lui conseilla William Doe. « Écoutez les conseils de ce brave garçon et prenez modèle sur le capitaine et moi. »«
Ce brave garçon, ça vous plaît à dire. Mais vous, monsieur Doe, vous savez où vous allez. Vous avez votre but. Moi, je ne sais rien du tout. » « Quant à M. Young, c'est son métier de risquer sa peau, tandis que ce n'est pas le mien. »
Nous ignorons si le chef des détectives était de cet avis. Le voyage ne le rendait pas plus causeur que d'ordinaire. Solidement campé sur sa selle, le cigare à la bouche, il ne s'occupait ni de ses compagnons, ni de la route, ni du terme de l'excursion. M. Kelly lui avait dit « Vous accompagnerez William Doe », Young accompagnait William Doe. Il l'eût accompagné de la sorte jusqu'au Pacifique. Le capitaine ne répondit donc pas à l'irascible fabricant de biscuits. Cependant, au bout d'une heure, l'aspect de la prairie se modifia peu à peu. L'herbe était moins épaisse, et les cavaliers pouvaient distinguer devant eux un bouquet de grands arbres qui indiquait comme une oasis au milieu de ce désert de verdure. Bientôt, en effet, ils aperçurent des champs cultivés, des bestiaux, tous les indices enfin d'un village qui devait s'élever non loin de là, probablement derrière le petit monticule dont ils n'étaient séparés que par quelques centaines de mètres. Le front de Saunders était redevenu joyeux, et il s'élançait déjà en avant lorsque Butler s'arrêta brusquement. Un homme, qui venait de surgir des hautes herbes la carabine à l'épaule, semblait vouloir empêcher les voyageurs d'aller plus loin. À cette apparition menaçante, le prudent industriel se rappela tout à coup que le trappeur lui avait recommandé de marcher sur ses pas, et il reprit la file. Butler sauta à terre, s'approcha de l'Indien qui n'était pas autre chose qu'une de ces sentinelles dont sont toujours entourés dans un large rayon les villages Sioux, et il lui dit quelques mots qui transformèrent immédiatement son attitude. Relevant son arme, il tendit la main à l'aventurier. Celui-ci remonta immédiatement à cheval, et la petite troupe, escortée du Sioux, se dirigea au pas à travers des champs de maïs vers le village dont elle aperçut bientôt les premières tentes.